La main à la pâte, ainsi que des missions proposées par les réseaux d'Impact Centre et Impact 37. Je suis Anouk, nouvelle voix de la main à la pâte et salariée d'Impact Centre. Dans chaque émission, je vous emmène à la rencontre d'associations, d'élus ou de citoyennes et de citoyens qui mettent la main à la pâte pour rendre le monde agricole plus durable. Bonjour à toutes et à tous. Le sujet du jour tient en une question. Comment adapter l'agriculture face aux enjeux climatiques? Grâce à ce podcast de 30 minutes, vous aurez en main toutes les clés pour résoudre ce problème. L'agriculture, le climat, plus rien n'aura de secret pour vous. N'hésitez pas à écouter cette émission jusqu'au bout, puis à envoyer un message avec l'emoji carotte pour recevoir en cadeau un autre podcast avec toutes les solutions pour résoudre la faim dans le monde. Au risque de vous décevoir, on ne peut pas résoudre ce problème épineux en 30 minutes. Et oui, je n'ai malheureusement pas le secret pour venir à bout du réchauffement climatique ou de la faim dans le monde avec un podcast. Il existe cependant des pistes de réflexion autour du changement climatique et de l'agriculture. Tout n'est pas perdu. Jeudi 20 novembre 2025, la mairie de Tours et les Shifters de Tours organisaient une conférence, ce que les risques climatiques imposent à l'agriculture. L'intervenant de cette soirée était Serge Zaka, docteur en agroclimatologie. Vous n'avez pas pu venir l'écouter ? Pas de problème. Olivia et moi sommes allés l'interroger pour vous. Qu'est-ce que l'agroclimatologie ? Quel rôle joue le paysage dans l'agriculture ? À quoi ressemblera notre assiette en 2100 en région Centre-Val de Loire ? Que peut-on faire en tant que citoyen pour favoriser l'agriculture durable ? Pour cette nouvelle émission, nous avons posé notre micro au salon de thé Le Lapin Vert, situé à Tours. N'hésitez pas à faire comme nous, vous installer tranquillement sur votre siège avec une bonne tasse de thé. Tout simplement pour nos auditeurs et nos auditrices qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter ?
Bonjour à tous, je suis Serge Zaka, je suis docteur en agroclimatologie. Alors l'agroclimatologie, ça se comprend, c'est deux mots en fait reliés en un, c'est l'agriculture et la climatologie. C'est donc la science qui étudie l'impact du changement climatique sur l'agriculture. Et dans cette science, il y a deux branches, l'agrométéorologie, donc la météo sur l'agriculture. Typiquement, c'est est-ce que je dois irriguer, est-ce que je peux semer, est-ce qu'il y a une canicule dans la semaine, je dois protéger mes animaux d'élevage, etc. etc. Donc c'est de l'agriculture pure. Et l'agroclimatologie, donc celle-là, c'est le climat sur l'agriculture. Bah, dans la région, est-ce qu'on aura de la pêche, est-ce qu'on aura de l'abricot, est-ce qu'il faut développer des filières d'ici 2050, 2060, est-ce que le consommateur va manger des produits de terroir qui seront différents en 2050. Donc la réalité, c'est vraiment plus du long terme et qui fait impliquer du socio-économique et politique. Du coup, en tout cas, beaucoup plus que l'agriculture.
Très bien, merci beaucoup. Je rebondis un peu sur la conférence que tu as fait hier. Quand on parle de changement climatique, on parle notamment de sécheresse, de pluie. Et sur le graphique que tu avais hier, quand on se projette en 2030, en région Centre, il y aura un peu plus d'eau en moyenne à l'année. En quoi c'est un problème pour l'agriculture ?
Alors, on regarde pas forcément au niveau agricole la quantité d'eau qui tombe à l'année. Ça ne veut pas donner un référentiel intéressant pour un agriculteur. Ça peut donner un référentiel intéressant pour les hydrogéologues, par exemple, ou les réserves en eau sur le territoire. Mais l'agriculteur, il va regarder vraiment ce qui se passe au niveau saisonnier. Il est vrai que dans la région, si on regarde les projections, on a beaucoup d'incertitudes d'ailleurs dans les modélisations, mais en moyenne, on tend vers une stabilité des précipitations. Certains modèles en voient même un petit peu plus à l'année, mais c'est plutôt la stabilité qui prime dans les projections. Par contre, en agriculture, on regarde ce qui se passe au niveau des saisons. Parce que vous savez, un blé, on va le semer à l'automne et le récolter en début d'été, tandis qu'un maïs, on va le semer au printemps et le récolter à la fin de l'été ou à l'automne. Donc ce qui se passe, c'est que ce n'est pas du tout la même saisonnalité. Et les cultures, par exemple d'hiver, le colza, le blé, l'orge notamment, ou certains types de maraîchage, vont avoir des problématiques d'excès d'eau. Parce qu'on a certes la même quantité d'eau qui tombe à l'année, mais attention, il y a une évolution entre les saisons qui impactera du coup l'agriculture. Donc un peu plus d'eau au cours de l'hiver et moins d'eau au cours de l'été. Avec des incertitudes dans la région sud de la France, hein. Mais du côté de Tours, sur les modélisations qui sont faites par l'État français, notamment à France à plus 4 degrés, on a une fiabilité qui semble plutôt correcte par rapport à ce qui est modélisé. Donc plus d'eau en hiver, donc quand je dis plus d'eau, c'est 5, 10, 15% en moyenne de plus d'eau. Par contre, en été, on aura 20, 25% parfois moins d'eau. Donc les maïs, le soja, le tournesol, les animaux d'élevage, les pâtures, eux, vont avoir un déficit. Tandis que, comme je disais, les cultures d'hiver vont avoir un excès. Donc c'est vraiment un double challenge pour l'agriculture.
Tu parlais hier du rôle des paysages dans l'agriculture, avec la plantation des haies, le développement des bocages. Ce sont des pratiques qui relèvent de l'agroforesterie, si je ne me trompe pas. Par exemple, si je me mets à la place d'un agriculteur, en fait, qu'est-ce que peut m'apporter la plantation de haies sur des parcelles?
Alors, si je mets à la place d'un agriculteur, ça va être différent d'un écologue ou d'un agroclimatologue. L'agriculteur va avoir une certaine forme aussi de rentabilité, parce qu'il faut un minimum vivre de son travail. Et donc, il va me dire, si je mets une haie, ça va me coûter plus cher à l'entretien. Ça va être son premier réflexe. C'est pour ça que je pense qu'il est intéressant dans l'avenir de ne pas penser que l'agriculteur est juste un producteur de nourriture. Il faut aussi intégrer, au niveau social, mais aussi au niveau d'aide économique de l'Europe ou de la France, bah que l'agriculteur, et au niveau régional aussi, que l'agriculteur est aussi là pour maintenir un paysage. C'est aussi son rôle, c'est aussi un travail. C'est-à-dire que quand il va installer des haies, il va avoir du temps pour tailler parfois ces haies, mais aussi un coût d'installation, un coût d'achat du matériel végétal aussi pour l'installer. Donc ça lui coûte. Mais dans un premier temps, l'agriculteur, son premier réflexe, c'est comment je l'entretiens, qui va m'aider à l'entretenir. Donc il faut vraiment faire évoluer cette réflexion politique. Qu'est-ce que l'agriculteur, quel est son rôle dans l'avenir? Parce qu'en fait, entretenir les paysages en termes de solutions d'adaptation au changement climatique, c'est une forme d'adaptation également. Et c'est une forme d'atténuation parce qu'on récupère aussi du CO2 atmosphérique. Donc premier point sur l'atténuation, l'arbre, la haie, va modifier le parcours de l'eau sur une parcelle. Vous mettez par exemple une haie assez dense quand même, hein, perpendiculaire à une pente. Et bah, lorsque l'eau va ruisseler, hein, sur la parcelle, quand il y a des excès d'eau, eh bien, elle va être bloquée par cette haie et lui laisser le temps de s'infiltrer. Parce qu'en simplifiant les paysages comme on l'a fait il y a 70 ans, on a accéléré la course de l'eau sur le paysage. Il y a moins d'éléments sur le paysage qui retient l'eau, donc on a plus d'érosion, l'eau va plus vite à la rivière, l'eau prend moins le temps de s'infiltrer dans les parcelles, et donc dans une problématique de changement climatique, l'eau étant très importante, notamment en été, il va falloir apprendre à la ralentir. Plus du rôle sur les insectes et les oiseaux que je n'aborde pas, parce que c'est pas mon métier, moi je vais aborder l'aspect aussi microclimatique. Un arbre, ça ralentit le vent. Une haie, ça ralentit le vent. Alors, il y a différents types de haies qui ralentissent plus ou moins le vent. Mais il y a des haies qui vont ralentir ce vent. Ce sont les haies plus ou moins opaques, avec des végétaux plus ou moins opaques, du coup, avec différentes tailles aussi d'arbres ou d'arbustes. Et en ralentissant le vent sur la parcelle, eh ben, on limite l'évaporation et la transpiration. Parce que le vent, c'est un facteur desséchant. Si quelqu'un met une serviette à sécher au vent, elle va sécher plus vite que dans un endroit où il n'y a pas de vent. Et bien les feuilles, c'est exactement pareil. Donc la maîtrise du microclimat est très importante. Et dernier point, l'ombrage, certes, va utiliser de l'eau, parce que les haies ont besoin d'eau pour pousser. Donc ça fait des pertes de rendement autour des parcelles aussi. Mais derrière, il faut savoir qu'il faut voir l'élément aussi d'ombrage et de maîtrise de la température de la parcelle. Quand on a plein d'arbres dans une pâture, par exemple, on maîtrise la température du sol par l'ombrage. Et les effets bénéfiques de cette maîtrise du microclimat doivent compenser la perte qu'on a par l'utilisation de l'eau des arbres qui sont présents dans les haies ou les arbres isolés dans les pâtures. Donc, faut voir dans un changement climatique, la maîtrise du microclimat sera beaucoup plus bénéfique que le fait de ne pas avoir de haies parce qu'elles consomment de l'eau. Et progressivement, nos paysages doivent absolument se complexifier. C'est une forme, bien sûr, de solution parmi tant d'autres.
Justement, tout à l'heure, on parlait aussi de la température qui monte de manière générale dans le monde. En 2100, la région centre pourrait donc connaître des températures pouvant atteindre jusqu'à 46 degrés. Avec ce changement de climat, à quoi ressemblerait l'assiette des habitants de la région? Quels fruits, quels légumes pourraient-ils consommer?
Alors effectivement, dans le rapport officiel français à France plus 4 degrés, c'est la TRACC, TRACC. Alors on a bien des 46 degrés qui sont modélisés pour la France à cette température-là, voire même 50. Hein. On va vers un réchauffement de cet ordre-là dans les conditions actuelles d'émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire que si on les diminue, on peut éviter cette problématique. C'est une problématique insurmontable. Là, c'est peut-être le seul moment où je vais dire, c'est pas possible de s'adapter. C'est-à-dire que quand on a plus de 45 à 50 degrés pendant plusieurs jours ou même un seul jour, là on a une défoliation massive des arbres, on a une perte totale des cultures, on a une mortalité des poulets, voire même des vaches ou des hommes, des humains, hein, qui est importante. Et donc la meilleure façon de s'adapter après 2060-2070 dans la région centre, c'est de réduire les gaz à effet de serre à échelle mondiale. Et pas uniquement qu'en Europe, mais en réalité, il y a d'autres pays qui doivent faire des transitions beaucoup plus rapide au niveau des gaz à effet de serre. Donc c'est vraiment quelque chose qui dépasse la région centre. Mais dans tous les cas, d'ici 2050, le climat continuant à se réchauffer, jusqu'à une certaine limite, encore une fois, je le rappelle, d'adaptation. Avant d'atteindre cette limite, on a des solutions d'adaptation plus ou moins intéressantes suivant les cultures. Et tu me demandais par rapport au local, au final, qu'est-ce qu'on cultivera, quels seront nos paysages? Déjà, en termes de paysages forestiers, on n'aura pas les mêmes essences. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'essences d'Aquitaine, voire même de Méditerranée après 2050, qui pourraient s'implanter dans la région. Donc des paysages qui vont être complètement différents, ne serait-ce qu'en dehors de l'agriculture, en termes visuels. Donc on aura par exemple le laurier qui pourrait encore plus remonter, le pin parasol qu'on a du côté des côtes landaises, etc. On a parfois le chêne vert méditerranéen qui perd pas ses feuilles en hiver, donc des paysages qui seront peut-être un peu plus verts même en hiver. En niveau agricole, forcément, l'arbre aussi va évoluer. Donc la pêche. Attention, ne plantez pas des pêchers trop tôt, en tout cas des variétés qui vont fleurir trop tôt, parce qu'on a encore des risques de gel d'ici là. Mais ce risque de gel devenant un petit peu moins important après 2050, bah, on aura des espèces pêche, abricot, kaki, nèfle qui pourraient arriver, voire l'olive, la grenade si le climat continue à se réchauffer, parce qu'en fait c'est vraiment échelonné dans le siècle, toutes ces espèces qui arrivent. Donc une production locale qui pourrait être différente. Mais qu'on soit d'accord? Le plus simple, c'est de planter l'arbre, même si un agriculteur vous dira que c'est complexe d'arriver jusqu'au rendement, je le conçois. Mais le plus complexe, c'est la filière. C'est-à-dire que la région doit développer au niveau régional des AOC, des IGP, des signes de qualité, des recettes, des consommateurs, des transformateurs, des transporteurs, des industries agroalimentaires qui vont reprendre ces productions territoriales. Et je pense que là, l'économie du territoire et le consommateur a un rôle très important d'acheter ces nouvelles filières pour soutenir économiquement ces filières-là, parce qu'en fait, la réalité, c'est que c'est plus un problème économique que agricole. On sait planter des cultures et récolter. Derrière, il faut qu'on ait absolument des consommateurs. Sur le maraîchage, vous aurez beaucoup plus de légumes en hiver. Ça, c'est plutôt intéressant parce qu'il y aura moins de gel. Le CO2 augmentant, il y aura de l'eau. Attention aux excès d'eau et aux maladies, cependant. Par contre, en été, on ne pourra avoir la tomate de Touraine. Ça m'étonnerait pas qu'en 2050, on ait une filière tomate de Touraine qui s'installe dans l'avenir. Ici, tomates de plein champ, hein, pas sous serre. Des melons, et aussi de la pastèque qui pourrait arriver. On peut les faire dans les potagers, mais économiquement parlant, c'est moins intéressant que d'autres cultures qu'on a actuellement dans le climat actuel. Par contre, sur les grandes cultures, on aura des cultures d'hiver comme l'orge, le colza ou le blé, qui pourrait avoir un rendement plutôt stable si on améliore les pratiques agricoles, voire qui augmente légèrement un peu plus au nord de la région. Les cultures d'été, par exemple, où là, on a énormément d'adaptations. Le maïs, par exemple, aura de plus en plus de difficultés, quelles que soient les formes d'adaptation, variétales, couverts, non labour. En fait, c'est simplement que la température qu'il fera et la génétique du maïs ne seront incompatibles, surtout l'eau également, qui manquera. Donc on a peut-être là une forme d'agriculture à revoir. C'est-à-dire, soit on a des variétés plus adaptées, mais ça coûtera plus cher à la production parce que, il faudra faire avec les à-coups climatiques, ou soit on change de filière. Mais quand on change de filière, passer par exemple d'un maïs à un sorgho, ou qu'on change sur d'autres filières, le pois chiche, ou encore une fois, il faut en développer l'économie. Sinon, c'est pas attractif pour les agriculteurs. Le sorgho, on prend l'exemple, est beaucoup plus résistant aux fortes chaleurs et aux sécheresses, jusqu'à 4 degrés de plus que le maïs, et à peu près 20 à 30% d'eau plus résistant que le maïs. Mais le sorgho, derrière, sa génétique fait qu'il n'est pas très rentable, il n'est pas très productif. Et donc, il va falloir en parallèle investir aussi dans la recherche à ce niveau-là. Ce n'est pas juste je plante et je regarde ce qui se passe. C'est que toute la filière de recherche, de réflexion, même politique, doit se mettre en place avant d'implanter une filière sur le territoire.
Par rapport au constat que tu évoques, par rapport au changement climatique, tout ça, est-ce que tu penses qu'il y aurait des impacts sur la distribution et l'acheminement des denrées? Par exemple, sur les véhicules frigorifiques, le stockage, les conditions de manutention par les employés, et comment adapter et penser l'infrastructure d'approvisionnement?
Alors là, c'est une question qui dépasse mon métier, mais il faut absolument aussi donner quelques pistes de réflexion, qu'il faudra compléter, bien sûr, parce que ce n'est pas mon domaine d'expertise. Derrière, on a par exemple l'après-pétrole. On a aussi la problématique de la puissance des tracteurs. Est-ce que électriquement parlant, s'ils sont électriques, est-ce qu'on a la technologie qui permet de, justement de peut-être labourer la terre, même si on reviendra un peu sur le labour, mais dans certains cas, il le faudra. Est-ce qu'on aura justement toute cette infrastructure énergétique à des coûts peut-être toujours intéressants, parce que du coup, la production agricole peut pâtir aussi des coûts énergétiques. Est-ce qu'on aura la production d'engrais aussi, qui est énormément émettrice de gaz à effet de serre, parce qu'elle utilise du pétrole, notamment dans sa production chimique. Est-ce qu'on aura justement une transition vers une énergie plus verte? Ça, c'est des questions sur lesquelles on est très en retard. Et même moi, je n'en aurais pas la réponse, puisque ça fait intervenir des processus plutôt physiques, plutôt d'ingénierie. Mais je sais qu'on est très en retard, parce qu'on commence à peine à se poser la question de comment faire des engrais un peu plus verts au niveau des gaz qu'on utilise pour faire ces engrais. Mais ces questions-là ne sont même pas venues à cause du climat. Elles sont venues à cause, ou grâce, je ne sais pas comment dire ça, des problèmes avec les Russes qu'on a actuellement, qui font qu'on a remarqué notre dépendance énergétique sur un pays extérieur. Et qui a fait du coup shifter les personnes en se disant, bon, quitte à réfléchir sur une énergie alternative qui ne nous dépendra pas des Russes, autant aussi intégrer dans l'équation l'environnement. Donc c'est des questions que je sais qu'ils commencent à travailler dessus, mais c'est très très tard. La capacité frigorifique, le transport aussi des denrées alimentaires, je veux dire, tout ça, c'est émetteur de gaz à effet de serre, mais ça intervient vraiment plus sur un système de... On a remarqué qu'on était beaucoup trop dépendant que sur le climat. Mais ceci dit, si ça peut résoudre et accélérer la réflexion sur le climat, voilà, on va dire que c'est plutôt positif.
La main à la pâte, un cycle d'émissions proposées par les réseaux d'Impact Centre et d'Impact 37. On a beaucoup là, parlé des agriculteurs qui doivent s'adapter au bouleversement climatique, mais qu'en est-il des consommatrices et des consommateurs? Ont-ils eux aussi un rôle à jouer dans le développement d'une agriculture durable? Et si oui, que peuvent-ils faire concrètement?
Alors, ils ont plein de rôles à jouer. Déjà, le premier rôle, c'est de connaître le milieu agricole. Parce que pour pouvoir, par exemple, faire ses achats, pour pouvoir savoir est-ce que je dois acheter du local ou pas du local, la façon de produire aussi, il faut se renseigner au niveau agricole. Et quand je dis se renseigner, c'est avoir la curiosité d'aller poser la question à des agriculteurs, peut-être dans un magasin local. Pour résoudre un problème de consommation, il faut déjà essayer de comprendre un minimum quel problème on veut résoudre. Et comme ça, on ne se fait pas influencer par n'importe quoi. Parce qu'il est vrai que sur les réseaux sociaux, sur TikTok, on a par exemple des climato-sceptiques qui racontent n'importe quoi sur les médias, mais on a parfois aussi des influenceurs bien-être, beauté qui racontent n'importe quoi sur l'agriculture. Et on a aussi parfois des agriculteurs qui peuvent raconter n'importe quoi sur l'écologie. Donc déjà, essayer de se forger une idée qui soit propre, avec des sources scientifiques, voire de la lecture scientifique, de l'écoute de podcasts scientifiques aussi, pour pouvoir d'ailleurs avoir son idée et... Pas que son idée, mais des faits mesurés. Déjà. Ensuite, le deuxième rôle, c'est de cuisiner. Parce que pour comprendre aussi le milieu agricole, la saisonnalité, la difficulté de produire, il faut, pour moi, apprendre à juste cuisiner la matière brute. Au lieu d'aller acheter une pizza surgelée, peut-être que vous pouvez acheter la pâte, parce que la pâte, même, bon, c'est assez simple, on va dire, on va pas exagérer, on va dire qu'on peut l'acheter. Faire la sauce tomate, par exemple, faites-la tout seul, de saison, avec des tomates. Tout ça. Ça participe à la connaissance agricole. Faire à cuisiner, c'est déjà une première étape. Et apprendre à nos enfants à faire à cuisiner, ça leur donne aussi ce réflexe de la matière brute qu'on travaille, la matière agricole, l'épluchage, le coupage, tout ça, la cuisson. Et ne serait-ce que juste connaître cette matière brute, ça permet déjà de se rapprocher du milieu agricole et de leur rendre curieux sur comment c'est produit. Ensuite, le consommateur, il a un rôle aussi au niveau du vote politique, parce qu'aussi pour avoir des actions politiques, on a aussi le pouvoir du vote, on a aussi l'engagement auprès d'associations locales, soit dans des associations, soit même à la mairie ou soit dans des jardins partagés. Ensuite, le consommateur, il a aussi ce rôle, c'est pas du vote là, mais c'est le rôle de l'argent. C'est-à-dire que lui, il va acheter des produits, par exemple, de poulet de Pologne ou de poulet d'Ukraine, parce qu'il coûte moins cher que le poulet français qui a été fait en Bresse avec un cahier de charge où il est obligé d'avoir des arbres pour pouvoir le protéger de la chaleur. Oui, ça coûtera plus cher, mais il faut savoir aussi que qu'est-ce qu'il veut le consommateur? Il veut à toujours manger moins cher. Eh bien, bah parfois c'est pas possible. Parfois, quand on mange moins cher, oui, la qualité et l'adaptation au climat et à l'environnement n'est pas forcément meilleure. Donc on va essayer de chercher à ce pouvoir d'achat, à acheter des choses qui vont favoriser plutôt les agriculteurs qui ont une production qui s'intéresse à la résilience climatique, à la résilience sur le sol, aux arbres, aux haies, au bien-être animal. Ça coûtera plus cher, mais à un moment, il va falloir y passer. Même si, je veux dire, il y a des personnes qui n'ont pas forcément les moyens, ce que je peux comprendre au niveau des revenus, notamment les étudiants ou d'autres catégories socio-professionnelles. Moi, quand j'étais étudiant, et je peux le dire clairement, j'achetais n'importe quoi.
Si vous êtes en situation de précarité, des initiatives pour accéder à une alimentation de qualité et locale se situent peut-être près de chez vous. N'hésitez pas à vous renseigner. Si le sujet vous intéresse, les deux précédentes émissions de La main à la pâte sont dédiées à des projets portant sur la lutte contre la précarité alimentaire.
Pour pouvoir agir, il faut comprendre. Pour pouvoir comprendre, il faut se renseigner. Et vous verrez qu'en vous renseignant sur la façon de produire, vous remarquerez qu'en fait, 80% des gaz à effet de serre qu'on a au niveau d'un produit agricole, c'est la façon dont il a été produit. C'est même pas le transport, c'est même pas la réfrigération, c'est vraiment 80%, suivant les produits, c'est entre 50 et 80% pour être plus précis, c'est la façon de produire. Donc voilà, c'est vraiment une réflexion presque philosophique aussi sur qu'est-ce qu'on veut, comment on le veut, comment on veut le consommer. C'est pas juste j'achète local, bio, vegan. Ça va beaucoup plus loin qu'en fait cette réflexion-là.
Toujours dans le thème de l'alimentation, qui dit alimentation dit gaspillage alimentaire. Et tu disais hier que si le gaspillage alimentaire était un pays, il serait le troisième pays le plus gros émetteur de gaz à effet de serre. Quelles solutions concrètes peut-on mettre en place pour réduire le gaspillage alimentaire?
30% de ce qu'on produit ne va dans la bouche de aucun animal ni homme. En fait, on a tellement produit, on a un système agricole qui est quand même pas mal. Il y a des choses à revoir, hein. Mais il est quand même pas mal en termes de niveau de production. Parce que bon, maintenant, ça a des impacts environnementaux. Mais si on met les impacts environnementaux de côté, on a un niveau de production qui est quand même suffisant pour nourrir tout le monde. Et en termes de calories produites dans tous les aliments du monde, on pourrait nourrir toute la planète. Après, c'est un problème de répartition. Il y en a qui mangent trop, il y en a qui mangent moins. Parce que leur climat ne leur permet pas, ou alors il y a beaucoup de corruption dans leurs états et qu'ils ne peuvent pas forcément adapter leur. Mais ceci dit, sur le gaspillage alimentaire, dès qu'on dit gaspillage alimentaire, la plupart des personnes pensent à je prends mon Tupperware du frigo où il y a un truc moisi, je le jette. On pense à ça dans le gaspillage alimentaire, c'est souvent ce qu'on nous dit. Il faut savoir que le gaspillage alimentaire, il intervient sur toute la chaîne agricole. Déjà, quelques grains qui tombent à côté de la réserve de grains lorsqu'on récupère le grain de la moissonneuse, enfin, déjà, ça commence par là. Là, c'est du machinisme et donc on a amélioré beaucoup ces processus d'automatisation, donc qui évitent certaines pertes. Après, il y a la réfrigération. Là, on a énormément amélioré aussi toute la chaîne du froid qui est respectée pour éviter qu'on jette une partie parce qu'il y a un camion qui est tombé en panne. Ensuite, il faut savoir que le gaspillage alimentaire, il intervient dans toute la chaîne de transformation, dans les plats préparés par exemple. Si on prend des trucs qui ne rentrent pas dans la machine, des pommes qui sont calibrées. Et donc on a beaucoup accéléré en mangeant de plus en plus préparé, en fait la perte agricole, puisque ça ne rentre pas forcément dans la calibration de ce qu'il faudrait pour faire tourner les machines qui nous produisent certaines purées, certains plats préparés. En parallèle, le gaspillage alimentaire, il intervient aussi sur le beau et le bon. C'est-à-dire quand vous allez dans les magasins, vous verrez les légumes sont parfaits. La pomme fait la même taille, le même calibre, la même couleur. Il faut absolument comprendre que ça, c'est à cause de nous, consommateurs. C'est que on a tellement eu de nourriture qu'on a pris les beaux sur les tables. Et à une époque, les carottes biscornues, on les prenait plus parce que bah, du coup, c'est plus compliqué à éplucher. Mais ça a le même goût, c'est exactement pareil. Donc il y a une réflexion presque philosophique aussi sur le consommateur à faire. Que les légumes moches, par exemple, oser le moche, on dit souvent c'est un slogan, eh bien, ont le même goût que les légumes qui sont pas moches, quoi. On a par exemple aussi de réduire les plats préparés dans la ration alimentaire, parce que du coup, ça fait moins d'intermédiaires. D'acheter un peu plus local, parce que du coup, on a moins d'intermédiaires de transport, ce qui fait éventuellement moins de pertes. D'apprendre à cuisiner aussi, par exemple, le ver de poireau, ou alors les abats aussi, parce qu'on mange vraiment le luxe, hein, c'est le muscle. En réalité, alors je ne vous dis pas manger cru comme des hommes préhistoriques, parce que c'est vrai que maintenant on le fait un peu moins, mais de l'intégrer dans des sauces. Il faut revoir notre rapport à la nourriture, qui est parfait. On veut que ce soit beau, rond, coloré, alors qu'en réalité, dans la vraie vie, et quand on n'a pas le choix, vous allez dans un pays en guerre, ils vont pas s'amuser à jeter les carottes qui sont biscornues. Ils mangent vraiment tout ce qu'ils peuvent, ils le réintègrent dans les plats, ils le travaillent autrement. Et nous, on l'a complètement oublié, c'est simplement qu'on a un excès, en réalité, dans nos rayons de couleurs, de belles choses, de tous les produits. Notre génération a oublié le manque et il faudra réapprendre, sans manque, bien sûr, je ne dis pas qu'on doit mourir de faim, mais réapprendre à ce que faisaient en fait nos parents et nos grands-parents.
Justement, tout à l'heure, on parlait du rôle des consommateurs, qu'est-ce qu'ils peuvent faire aussi de leur côté. On parlait de l'importance du choix des élus. Tu en rencontres souvent dans tes interventions. Y a-t-il des arguments, des points importants qui les marquent et qui peuvent faire pencher plus facilement la balance vers une politique plus adaptée à ces enjeux climatiques?
J'ai pas le même discours ou du même l'entrée du discours suivant mon public, hein, le consommateur, le producteur ou le politique. Sur le politique, j'apporte déjà dans un premier temps les éléments positifs. Parce que les élus, tout comme les producteurs aussi, si on n'apporte que des éléments négatifs au début, ils vont se dire, Oh, c'est encore un bobo écolo, là, il va me parler de catastrophisme, je vais pas l'écouter. Donc c'est une certaine forme de façon de parler, d'entrer en matière, qui vont dire qu'on va essayer de tirer le positif de tout ça et d'investir dans des choses qui sont intéressantes et durables dans l'avenir. Par exemple, l'arrivée de l'huile d'olive dans le sud-ouest de la France. C'est intéressant, parce que l'Espagne se désertifiant, on a des aspects économiques intéressants. Après, dès qu'on apporte des aspects positifs, peut-être qu'aborder les aspects négatifs dans un second temps, bah là, ils vont un peu plus avoir l'oreille, parce que du coup, ils ont quelques pistes d'adaptation et de solutions dès le début. Par contre, les difficultés que j'obtiens des politiques, c'est bien de comprendre le problème. Mais après, c'est pas moi qui prends la décision, sinon ce serait réglé. C'est qu'après, quand on laisse les politiques et qu'il y a d'autres personnes qui leur font d'autres réunions et qui leur disent exactement l'inverse, est-ce que j'écoute le scientifique? Est-ce que j'écoute l'économiste? Est-ce que j'écoute le lobbyiste? Et en réalité, les décisions qui sont prises derrière veulent tellement faire plaisir à tout le monde qu'elles ne servent à rien. On a un autre point d'accroche avec les politiques, c'est que ils n'ont pas la même vision de durée. C'est-à-dire que moi, je travaille sur des pas de 20 ans, 30 ans, et eux, ils vont bah, dire, bah, moi, dans 20 ans, 30 ans, je suis à la retraite ou je suis mort. Donc, pourquoi je travaillerais là-dessus? Le politique, malheureusement, son métier, sa vision de son métier a évolué de plus en plus. Alors, je parle du politique national, pas forcément local. Ça a évolué vers son aspect personnel. C'est son travail personnel, c'est son discours personnel, c'est sa carrière personnelle. Et donc, au final, il va penser à 5 ans, même 10 ans, allez, pour faire lointain. Mais des trucs 20 ans, 30 ans, ils préfèrent les laisser aux autres. Ce qui fait qu'on a une politique de plus en plus au court terme et pas une politique au long. On passe notre temps à éteindre les feux sur des politiques court terme à cause d'échecs de long terme. Parce que le court terme de maintenant, c'était du long terme du passé. Et vu qu'on s'est toujours concentré au court terme, bah, on est complètement obnubilé par le prix du blé cette année, la dépendance à la Russie qu'en fait on n'a pas vu venir parce qu'on n'a pas pensé à long terme. Qui est le dernier point au niveau politique. C'est où est l'argent pour faire ces transitions? On a quand même sorti des dizaines de milliards d'euros pour faire des bombes. Et là, on vient me dire que ça fait 20 ans qu'on ne trouve pas de moyens pour faire adapter nos agriculteurs au changement climatique. On est capable de les regarder en train de avoir des pertes de rendement depuis 20 ans. Et je pense qu'il y a un moment, c'est juste une question aussi de priorité dans la redirection des fonds. Qu'est-ce qu'on veut dans l'avenir? Est-ce qu'on veut être le plus viril et montrer qu'on a le plus de bombes, ou alors est-ce qu'on veut nourrir les personnes ou garantir une planète habitable d'ici 50 ans? Mais tout ce qui nous entoure, que ce soit dans le Moyen-Orient, en Russie ou en Amérique, c'est que des hommes et c'est que la loi du plus fort.
On change de sujet, on revient un peu à votre travail. Donc vous êtes l'un des fondateurs, ou même le fondateur, d'Agroclimat 2050. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette plateforme? À quel public s'adresse cette plateforme et pourquoi on parle de l'année 2050?
Alors, Agroclimat 2050, parce que je pense que c'est un pas de temps qui est intermédiaire entre pas trop long, pas trop proche. Parce que quand tu dis 2100 à un agriculteur, il va dire bah, je suis mort d'ici là. Alors que quand tu lui dis 2035, on n'a pas trop de variabilité. Et donc, il va dire ouais, je vais perdre moins 0,5% d'eau dans ma parcelle. Bon, c'est pas énorme, j'ai pas besoin de changer. Par contre, 2050, c'est un espèce de pas de temps intermédiaire qui prend compte à la fois les grandes cultures, les nouvelles filières, l'arbre, la viticulture, où là, c'est plus long pour adapter. Et Agroclimat 2050, oui, c'est un institut, même un centre de recherche. On est quatre, dont deux qui travaillent sur de la modélisation data, moi et Vincent. Et l'objectif est d'adapter de façon scientifique, pragmatique, notre agriculture. Mais pour ça, il faut chiffrer le coût de l'inadaptation. C'est-à-dire que si on fait rien, qu'est-ce qui se passe? Combien de rendement on a? Combien de rendement on peut gagner, éventuellement? Où faire les cultures? Comment faire les cultures? Et tout ça, c'est pour apporter des choses qui soient hyper concrètes pour l'agriculteur, qui répondent de façon agronomique aussi à la problématique, qui ne soient pas déconnectées de la réalité agricole. Et on a des outils gratuits qu'on développe comme agrométéorologie.fr, qui est un site qui permet aux agriculteurs de façon gratuite d'avoir les risques météorologiques à venir dans la semaine. Et on travaille beaucoup sur la transition climatique de très nombreuses entreprises agricoles et même l'État français. On travaille avec lui sur la transition des régions agricoles, par exemple. Sans prétention, hein, je n'ai aucun poids par rapport à l'INRA ni rien. C'est juste que moi, je suis hyper, hyper spécialisé en agrométéorologie et climatologie, puisque je suis très passionné par ça. Et j'essaye en plus de transmettre ma passion. Donc, moi, j'ai fondé Agroclimat pour trouver un équilibre personnel entre ce que je voulais faire, ce que je veux apporter, ce que je peux apporter et ma passion sur la météorologie et ne pas devoir faire des tâches administratives ou des tâches de recherche qui ne m'intéressaient pas juste pour trouver des financements. Ben moi, je vais aller droit au but.
Et enfin, une dernière question. Si nos auditrices et auditeurs souhaitent en savoir plus sur votre travail, sur l'agroclimatologie, quels ouvrages ou quelles ressources en ligne tu leur conseilles?
On a fait la première BD sur l'agroclimatologie aux éditions Les Tardigrades, qui est disponible uniquement sur le site Les Tardigrades, des éditions Les Tardigrades, les maisons d'édition bretonnes. C'est très beau. Donc là, c'est vraiment pour les plus jeunes générations, voire les adultes qui veulent s'intéresser sans avoir de base scientifique au préalable. Ensuite, on a des ouvrages sur le changement climatique en lui-même, d'autres BD notamment sur le GIEC. Vous trouverez ça notamment sur le blog de Bon Pote, parce que c'est lui qui a travaillé en partenariat surtout sur ce sujet de vulgarisation. Il y a d'autres BD sur l'énergie, comme celle de Jean-Marc Jancovici, ça aussi ça sort de mon domaine. Mais si on veut revenir sur mon domaine, on a par exemple en agroclimatologie, j'ai écrit un livre un peu plus en détail que la BD quand même, plus technique, mais qui reste vulgarisé, je rassure. Là vous avez par exemple, c'est Orage sur le climat aux éditions HarperCollins que j'ai rédigé l'an dernier. Alors pour aller vraiment dans le technique cette fois-ci, il y a plein de rapports de l'INRA. Aux éditions QAE, il y a par exemple Vigne, vin et changement climatique pour les viticulteurs. Je trouve que c'est très fiable. Ce sont des scientifiques qui rédigent ces livres. Ce sont souvent des rapports de l'INRA. Si on a une formation technique sur le climat, sur la science, on peut décrypter ces différents livres. Ce n'est pas des romans. Il n'y a pas suffisamment d'informations sur l'agroclimatologie, je le conçois, mais on travaille dessus.
Merci pour toutes tes réponses et d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Est-ce que tu as quelque chose, peut-être qu'on n'aurait pas évoqué, qui te semble important de préciser?
Avant de vous dire au revoir et de vous remercier, il y a un aspect important que le grand public, et nos auditeurs notamment, doit comprendre. Soutenez les scientifiques sur les réseaux sociaux, laissez-les prendre la parole, repartagez les posts, likez, commentez, faites marcher les algorithmes. Parce que malheureusement, dans la société actuelle, notamment depuis l'élection de Donald Trump, on repart un peu en arrière sur la connaissance scientifique. Le scientifique devient presque, dans tous les cas, un idéologiste qu'il faut absolument abattre. Et quand je dis abattre, c'est vraiment au sens propre du terme, entre les menaces de mort, etc. qu'on reçoit. Il faut comprendre que la majorité silencieuse est beaucoup plus importante que tous les climato-sceptiques qui traînent sur les réseaux sociaux. Alors oui, continuez à soutenir les scientifiques, suivez-les sur les réseaux sociaux, trouvez des sources fiables, chiffrées, argumentées et pas idéologiques également. Voilà, c'est un petit peu le mot de la fin et je vous remercie pour votre écoute.
L'adaptation des pratiques agricoles et la réduction des gaz à effet de serre sont donc indispensables pour les années à venir. Agriculteurs, citoyens, scientifiques, élus, nous avons tous un rôle à jouer à notre échelle pour l'agriculture du futur. On espère que ce podcast vous a fait réfléchir ou apporter des réponses sur ce sujet. Merci à Serge Zaka pour avoir donné de son temps malgré un planning très chargé. Merci à Enora Dubu et à Kevin Collin pour avoir rendu cette interview possible. Merci également à Aude Coudrin pour nous avoir accueillis dans son salon de thé. Nous vous conseillons vivement d'y faire un tour. Il y a un très grand choix de thé, on n'avait pas à savoir quoi choisir.
C'était La main à la pâte, un cycle d'émissions proposé par les réseaux d'Impact Centre et Impact 37. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode.